Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on se laisser gouverner par le hasard? Une émission en partenariat avec le journal La Croix. Daniel Gerbert n'ira pas à l'Assemblée nationale. Le candidat du collectif Ma Voix n'a obtenu que 4,25% des voix hier au premier tour de la législative partielle de Strasbourg. Pas assez pour en faire un député, mais un score important malgré tout pour cet ancien libraire que rien ne destinait à concourir à la députation. S'il est devenu candidat, c'est un peu par hasard. C'est son nom à lui qui a été tiré au sort pour porter les couleurs du collectif. Alors, le tirage au sort, voilà un principe de désignation des représentants politiques qui avait fini par tomber en désuétude, mais qui connaît un regain d'intérêt à la faveur de la désormais fameuse crise de la démocratie représentative. L'idée est plus ou moins la suivante. Puisque le système est à bout de souffle, puisque l'élection ne permet plus de désigner des représentants considérés comme légitimes, et puisque le hasard fait bien les choses, alors laissons-le faire. Si ce n'est pas mieux, ça ne sera pas pire. Le projet est séduisant, il a au moins le mérite de bousculer nos vieilles certitudes démocratiques. Mais pour quel bénéfice? Peut-on se laisser gouverner par le hasard? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Anouk Barberousse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe des sciences, spécialiste de la philosophie de la physique et de la philosophie des probabilités. On vous doit notamment aux éditions Huibert en 2014, précis de philosophie des sciences. Pour discuter avec vous, Gilles Delannoy. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous enseignez dans le master Histoire et théorie du politique et votre cours s'intitule Histoire et théorie de la démocratie. Troisième invité, Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié l'an dernier chez Odile Jacob, L'abeille et le philosophe. Je citerai également un autre ouvrage directement lié au sujet de ce soir, c'était chez Grasset en 2011, « Qui doit gouverner une brève histoire de l'autorité ?» Et puis ce soir, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes en partenariat avec le journal La Croix, pour m'accompagner, vous poser des questions, Laurent de Boissieu, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à La Croix, le journal qui lance, je le rappelle, sur trois semaines, une vaste enquête intitulée « Vive la politique ». Alors, j'ai décidé de laisser faire le hasard pour savoir à qui j'allais poser ma première question, et ça tombe sur vous, Gilles Delannoy. Est-ce que procéder au tirage au sort, c'est s'en remettre au hasard?
À mon avis, non. On peut tirer au sort trois sortes de choses. On peut tirer au sort des objets, des personnes, ça sera principalement notre question aujourd'hui, mais on pourrait aussi tirer au sort des décisions. Si on tirait au sort des décisions, alors oui, nous serions certainement gouvernés par le hasard, mais ça serait le cas exact de gouvernement par le hasard.
En quoi ça ne fonctionne pas pour les personnes?
Les personnes, en général, on essaie de non pas d'utiliser le hasard pour avoir un résultat irrationnel ou imprévu ou arbitraire. On essaie au contraire de faire en sorte que le tirage au sort va avoir des avantages que les autres procédures n'ont pas. Ça peut servir à représenter. Donc si vous avez un échantillon suffisamment large, c'est le hasard, vous allez l'éliminer et non pas le garder. 5000 personnes vont représenter très bien la population française en termes de classe d'âge, en termes de sexe, en termes de niveau de revenu, beaucoup mieux qu'une élection de 5000 représentants. Voilà un exemple où le hasard est éliminé par le tirage au sort. Si vous prenez des tâches où chacun passe à tour de rôle, le hasard, ce n'est que le moment où on passe. Tout le monde fait la même tâche, tout le monde y passe. Pas beaucoup de hasard non plus, en l'occurrence. La seule chose, peut-être, c'est que le tirage au sort, donnant des chances égales à chacun, il y a une part effectivement de chance égale qui fait penser au hasard.
Alors je vais poursuivre mon tour de table pour savoir si nos deux philosophes, puisque nous avons deux philosophes également dans ce studio, Anouk Barberousse et Pierre-Henri Tavoyot, partagent votre point de vue et font la même distinction. Anouk Barberousse.
Alors en effet, quand on tire au sort un échantillon assez large, qu'on appelle un échantillon représentatif, je suis entièrement d'accord qu'on élimine le hasard pour ce qui est, en tout cas, de la représentativité de la population générale, qui est effectivement un des buts majeurs pour lesquels on peut tirer au sort des personnes.
C'est d'ailleurs ce que font les instituts de sondage très régulièrement.
Oui, ainsi que les cours d'assises. Donc c'est quelque chose qui est institutionnalisé sur des bases mathématiques solides. Donc ça c'est quelque chose d'important et d'intéressant, c'est qu'on a des arguments théoriques pour faire ça, qui sont bien connus et bien maîtrisés par les gens qui utilisent justement le tirage au sort.
Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, d'ailleurs, c'est pas le but, justement, de, si on choisit le tirage au sort, c'est précisément pas pour se faire gouverner par le hasard, mais plutôt, justement, pour améliorer, enfin, la séduction que vous évoquiez tout à l'heure, c'était précisément pour régénérer la démocratie. Et en général, on fait appel à une procédure de tirage au sort quand il s'est, qu'on est face à une situation vraiment de justice insoluble. La justice, il y a quelque chose à partager, il faut donner à chacun ce qui lui revient, c'est la vieille définition aristotélicienne de la justice. Et il faut choisir le critère. Et voilà, le critère fait défaut. Alors, il y a une belle fable du philosophe Amartya Sen. Hein. Vous avez une flûte, il y a trois enfants. Les trois enfants viennent plaider leur cause pour avoir la flûte. Le premier, parce qu'il dit « je joue merveilleusement bien de la flûte ». Le second dit « mais c'est moi qui ai fabriqué la flûte ». Et le troisième dit « j'ai pas de jouet et il me faut la flûte ». À qui donnez-vous la flûte ? Ben, dans l'embarras entre le talent, le mérite et le besoin, vous allez dire, bon, écoutez, on va tirer au sort. Voilà, ça va être la solution la plus simple.
Et ça, oui. On peut l'appliquer à la politique si, par exemple, justement, j'ai face à moi trois candidats dont un représente le talent, l'autre le mérite, et pardonnez-moi, j'ai oublié le troisième.
Besoin.
Le besoin.
Ça va être plus compliqué, ça.
Et que je suis incapable de les départager. Est-ce que je peux me dire, bah, finalement, ça serait pas mal pour désigner celui qui viendra me représenter de le tirer au sort.
Vous voyez bien que ça, c'est une expérience de pensée, je trouve, très, très stimulante et très intéressante, mais ça ne colle pas parce que, justement, ce qui est en jeu, dans la politique, c'est le bien commun. Et donc, dès lors que vous avez ce bien commun, la finalité, c'est le mieux commun, c'est l'amélioration. Et là, on peut pas, disons, justement, faire viser dans une perspective qui soit une perspective de choix intégralement aléatoire. Donc, c'est vraiment quand, disons, le fait de ne pas choisir serait plus grave que le fait de choisir. Et puisqu'on doit choisir, alors on va prendre la procédure du tirage au sort. C'est dans cette situation que le tirage au sort se justifie.
Laurent Deboissieu.
Donc concrètement, pour désigner 577 députés à l'Assemblée nationale, ça ne s'appliquerait pas, selon vous ? Ce serait pas une bonne procédure pour désigner ses représentants ?
Gilles Delannoy.
Si on tirait au sort les députés sur l'ensemble de la population française, comme je l'ai dit, en termes de représentation descriptive, vous aurez quelque chose de plus proche de la diversité de la population française. Cela dit, ça n'est pas forcément le but du système. Le but du système, c'est de dégager une majorité et une minorité, tout de même. Mais on peut imaginer, en effet, Robert Dahl, le théoricien politique américain mort récemment, avait imaginé une troisième chambre qui, aux États-Unis, pourrait être tirée au sort parmi toute la population ou parmi une partie de la population et qui viendrait compléter les deux chambres existantes. Mais le remplacement de la démocratie représentative par le tirage au sort ne me semble pas une bonne idée parce que leurs principes sont trop diamétralement opposés.
Et pourtant, Anouk Barberos, on peut dire que ce mode-là, si effectivement c'était sur, on va dire, une masse critique qui était choisie au sort les députés, ce serait une assemblée représentative. Donc, assemblée représentative, démocratie représentative, on est quand même dans des notions qui ne sont pas très éloignées.
Oui, absolument. Et je pense qu'effectivement, la question, c'est de savoir dans quel but on tire au sort les représentants. Si on reprend l'exemple des jurés, on les tire au sort parce que on a cette croyance que la diversité des points de vue est quelque chose d'important pour prendre la décision. C'est pas exactement le même but que la désignation des représentants politiques. Et cette différence de but, du coup, rend le rôle du hasard assez différent.
Gilles Delannoy.
Oui, il y a une petite équivoque sur le mot représentation. La démocratie représentative n'a pas été appelée représentative parce qu'elle représentait la population comme un miroir.
Elle a été représentative.
Elle a été représentative au sens où on a un avocat qui vous représente. C'est ça l'idée d'origine. Or, il est absolument pas nécessaire d'être un criminel pour défendre un criminel. Vous voyez bien que le principe est totalement opposé. Donc, on représente quelqu'un sans être comme lui. Alors, il est vrai que la démocratie porte les deux principes. En revanche, et d'ailleurs, les partis sont censés représenter de vastes courants d'opinion. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, plus peut-être encore que l'usure de la représentation d'assemblée, c'est peut-être la représentation partisane qui est en crise.
Pierre-Henri Tawayo, pourquoi est-ce que ce que l'on accepte d'appliquer avec les jurys populaires, c'est-à-dire donc de prendre des gens au hasard, malgré tout pour ensuite prendre des décisions qui paraîtront la meilleure possible à prendre, pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas, ce principe-là, sur le terrain politique ? Est-ce que c'est avant tout lié à notre histoire politique ? C'est-à-dire, voilà, et pour faire simple, à l'histoire de la Révolution, où finalement, il y avait peut-être le choix, d'ailleurs, à l'époque. Est-ce que, justement, on passe par l'élection ? Est-ce qu'on passe par le tirage au sort ? Et pourquoi c'est l'un qui l'a emporté sur l'autre ?
Alors, il y a un précédent. C'est-à-dire que justement, quand on réexamine les institutions de la Grèce antique, on s'aperçoit effectivement que les procédures de tirage au sort dans la démocratie athénienne étaient extrêmement présentes. Il y avait, disons, trois types d'exercices du pouvoir. Il y avait le peuple à l'assemblée, c'est l'ecclésia. Il y avait des magistratures élues. C'était en général les stratèges et les finances. Remarquez bien que quand c'est vraiment sérieux, stratèges et finances, on ne fait pas appel au hasard. Hein. C'est pas le tirage au sort, c'est l'élection, et c'est comme ça que Périclès a pu effectivement être très très longtemps au pouvoir. Et puis il y avait pour toute une série de magistratures plus intermédiaires, 600 sur 700 quand même, c'était pas rien, des procédures de tirage au sort qui... Alors attention, tirage au sort avec quand même des contraintes sur la base du tirage au sort, c'est-à-dire tout le monde n'était pas tiré au sort, il fallait avoir plus de 30 ans en général, enfin c'est très compliqué, il y a plein de variations, mais plus de 30 ans, il fallait être volontaire, ça c'est capital. Capital, c'est-à-dire qu'il fallait être candidat. Non, c'est pas un hasard total, au sens où vous n'avez pas envie de le faire. Ça va, c'était pas systématique, mais il fallait être volontaire pour les liastes, pour les nomothètes. Enfin, il y avait toute une série de procédures. Donc voilà, il y avait cet ensemble. Donc on l'a pratiqué. Et Aristote disait, et ça c'est clair, c'est que les procédures démocratiques étaient le tirage au sort, la procédure élective était l'aristocratie. Ce en quoi, en un sens strict, on peut considérer qu'il a raison, même si il faut aussi veiller au fait qu'Aristote n'était pas forcément un grand fanatique de la démocratie. Donc c'est souvent les adversaires de la démocratie qui identifient démocratie et tirage au sort.
Gilles Delanoë ?
Oui, aristocratique, parce qu'au moins on peut espérer qu'on cherche à élire les meilleurs, même si ça n'est pas toujours le cas. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Henri Tavoyau. Il faut néanmoins nuancer, le tirage au sort a aussi été appliqué dans beaucoup de républiques italiennes de la Renaissance. Si vous limitez le nombre de mandats possibles, l'effet de candidature est lui-même en partie limité, parce que si vous pouvez être qu'une fois ou deux fois ou trois fois au Conseil à Athènes pendant un an, ça veut dire que quand vous avez épuisé vos chances de tirage, quand vous avez été sélectionné par le tirage, d'autres doivent être candidats. Mais en effet, ça n'était pas absolument toute la population, mais plus de la moitié quand même.
Laurent de Bassieu.
Si l'élection, en gros, postule qu'on a tous la même capacité pour élire nos représentants, et le tirage au sort qu'on a tous la même capacité pour exercer le pouvoir. Et est-ce que ce n'est possible, finalement, que si je vous suis un peu dans l'exemple grec ou les républiques italiennes, que si ce tirage au sort se fait au sein d'un petit échantillon, un présélectionné de personnes, en quelque sorte?
Oui, c'est assez largement ça qui fausse un peu la donne. C'est que pour un certain nombre d'institutions, d'abord c'était, il y avait un pré-choix. Les dèmes, les familles, enfin les tribus d'une certaine façon, choisissaient auparavant les candidats qui pouvaient être sélectionnés au tirage au sort. Donc ça filtrait quand même assez largement. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il ne faut pas trop exagérer cette affaire. J'ajoute un point qui est un point de débat aussi. C'est que, alors, c'est un point de débat chez les historiens. Parce qu'un certain nombre d'historiens de la Grèce antique disaient « Mais ce n'est pas le hasard qui choisit, ce sont les dieux. Et si on fait appel au hasard, si on fait appel au tirage au sort, c'est parce qu'on pense que ce sont les dieux qui choisissent. » Alors on peut penser, malgré tout, c'est un débat chez les historiens, que dans la démocratie, finalement, cette dimension religieuse au 4e et 5e siècle n'a pas été si présente que ça. Mais en même temps, elle ressurgit dans la Rome antique. Donc il y a quand même cette dimension sous-jacente.
Alors justement, ça tombe très bien que vous disiez ça, parce que j'allais en venir à ce point. Anouk Barberousse, est-ce que s'en remettre au hasard, en tout cas, qu'est-ce que la philosophie des sciences dit de ça? C'est-à-dire s'en remettre au hasard, ce serait s'en remettre à une volonté supérieure qui nous échappe, et c'est presque aussi une forme de déresponsabilisation finalement.
Je pense que dans les cas où effectivement on fait appel au hasard, soit sur des populations restreintes, donc effectivement comme disait Pierre-Henri Tavoyau, présélectionnées en quelque sorte, soit sur la population générale comme pour le cas des jurés, en fait on ne veut pas que ça soit... Comment dire, complètement n'importe quoi. On a, en général, on a des raisons pour ça, c'est quelque chose de raisonné, on a des arguments pour s'en remettre au tirage au sort. Donc, faut pas assimiler le tirage au sort au gouvernement du hasard, justement, parce que ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et encore une fois, par exemple, pour les jurés, on a cette confiance que tout citoyen est capable, un peu comme vous le disiez pour les électeurs, tout citoyen est capable de prendre une décision sur des cas particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'a pas la même théorie de la capacité des citoyens à prendre des décisions sur justement le cours de la politique. Et ça, je pense que cette différence entre juger sur un cas singulier, quelqu'un qui est soupçonné de meurtre, par exemple, et juger sur des décisions pour la population générale, c'est quelque chose de vraiment différent. Donc moi, j'insisterai sur les raisons du choix de la désignation par le tirage au sort.
Gilles Delannoy, en tout cas, il ne faut pas voir dans ce retour un peu à la mode du tirage au sort un retour d'un rapport au divin qui ferait que voilà, on serait un petit peu comme les Grecs anciens.
D'autre part, quand on tirait au sort des gens pour s'occuper des temples, on les tirait au sort pour la vie. Les dieux ne se dérangent pas pour rien. Ils ne se dérangent pas pour faire uniquement des échantillons représentatifs, à mon avis. Mais il y avait la double dimension Athènes.
Allez savoir.
Le mot, oui, ils peuvent aussi synthétiser. Ils peuvent être frivoles comme tout le monde. Mais le mot raison est très important parce que, là je voudrais citer mon collègue et ami Oliver Dolan, il faut qu'on ait une bonne raison d'utiliser le tirage au sort, plutôt que le vote ou le marché ou toute autre procédure qui est possible dans le même cas. Mais en reprenant les thèses d'Oliver, je pense que sa formulation est très bonne quand il dit que le tirage au sort, et notamment à ceux qu'il critique, n'est ni irrationnel ni rationnel, il est sans raison. C'est-à-dire que quand vous faites un choix par le mécanisme du tirage au sort, vous éliminez toutes les raisons, les bonnes comme les mauvaises. C'est pourquoi il faut, en général, si vous voulez un critère d'utilisation, utiliser le tirage au sort quand vous pensez que les mauvaises raisons vont l'emporter sur les bonnes.
Mais juste pour prendre un cas concret, ça peut être quoi, par exemple? Est-ce que ça peut être une élection législative? Ça peut être une élection locale? Ça peut être... Bah tiens, par exemple, dans le Monde, il y a quelques jours, on apprenait, alors on sort un petit peu du politique, mais que comme il y avait énormément de candidats à la fac de médecine en Île-de-France, on allait peut-être procéder au tirage au sort parce que c'était... un moyen, justement, de faire de la sélection sans en faire véritablement.
Là, dans le cas des études de médecine, on est vraiment, normalement, à contre-emploi, puisque l'enseignement, c'est le système où on sélectionne les gens en fonction de leur performance. Ils ont, au départ, des compétences égales, mais c'est leur performance qui doit être évaluée. Nous sommes tous capables de parler notre langue, mais nous la parlons plus ou moins bien. Il est tout à fait normal que chacun fasse ses preuves.
Sauf que les compétences qui sont les nôtres en première année de médecine ne seront pas forcément les mêmes 8 ans plus tard, et que peut-être que ceux qui étaient finalement les moins bien placés seront les plus aptes à exercer
le métier. Oui, mais enfin là, en l'occurrence, on ne tirait même pas au sort les gens qui allaient faire les études, si j'ai bien compris. On éliminait ceux qui étaient en trop. C'est un tirage au sort quand même très très négatif. On n'a pas de place pour tout le monde, on tire au sort ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont une minorité. Pour moi, c'est vraiment tout à fait contraire à l'idée du tirage au sort.
Donc juste, on
peut défendre.
Alors, il y a de bonnes raisons, il y a de mauvaises raisons de procéder du tirage au sort. Pour vous, Pierre-Henri Tavoyot, quelles seraient les bonnes raisons de pratiquer le tirage au sort alors, peut-être sortir
en politique. Je crois que justement, on peut essayer de faire l'inventaire des bonnes et puis des raisons. Fondamentalement, je ne suis pas, moi, personnellement, un grand fanatique de cette affaire. Mais si on prend l'argumentation, je pense qu'effectivement, Aristote a dit des choses très belles là-dessus. Il dit, en démocratie, ce n'est pas le fait que le peuple exerce le pouvoir directement, c'est le fait qu'on l'exerce à tour de rôle. Et que chacun doit gouverner et obéir au fil des années. Pour bien savoir gouverner, il faut savoir obéir. Pour bien savoir obéir, il faut savoir gouverner. Voilà. Donc, le tirage au sort, en un sens, instaure cette fluidité démocratique. Il permet donc la rotation, il permet de penser l'égalité. Donc, tout ça le figure, ça le rend sensible. Et puis, il permet aussi d'éviter des campagnes électorales qui sont coûteuses, qui sont propices à la démagogie. Ça, c'est les trois grandes raisons qui permettent de justifier le tirage au sort. Le tirage au sort comme procédure. Ça me laisse un peu sur ma faim, notamment sur la question de la campagne électorale, parce que je pense que justement la campagne électorale, c'est essentiel. Et qu'on veut, en fait, par le tirage au sort, trouver une espèce de martingale, de panacée, pour non seulement éviter le conflit, mais les abolir. Or, si on abolit le conflit, on abolit la politique. Parce que la politique, c'est justement la gestion complexe des conflits. Et puisqu'on est en démocratie, il faut accepter le conflit, et notamment le conflit d'idées, d'où la nécessité absolue d'une campagne électorale.
Sauf si vous procédez à du tirage au sort à l'intérieur des formations politiques pour désigner les candidats.
Oui, mais ça, j'allais dire, c'est simplement, vous faites un pré-tirage au sort pour ensuite, de toute façon, laisser le pouvoir. Donc, j'allais dire, c'est relativement secondaire. Moi, je préférais, en effet, alors pour le coup, par rapport à la primaire, où j'ai cette multiplication des élections qui, trop d'élections tuent l'élection, je préférais effectivement qu'on fasse une procédure de ce type pour ensuite présenter les candidats au suffrage.
Oui, justement, j'allais vous demander concrètement aujourd'hui en France en 2016, vous l'avez dit, en pré-sélection, le tirage au sort peut fonctionner pour une pré-sélection, mais pas forcément pour la décision finale.
Gilles Delannoy, Anouk Barberousse. Allez, Anouk Barberousse, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu.
Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question, mais je vais revenir en arrière sur la désignation des étudiants en médecine par tirage au sort, parce que, évidemment, c'est un cas complètement différent de la désignation des représentants politiques. Mais je voulais juste signaler une ambiguïté qui est que aujourd'hui, dans le système tel qu'il est, avec donc un numerus clausus très fort, une sélection très très forte des étudiants au centième de point, finalement, les, on va dire, 50-60 étudiants qui sont à la fin du classement, ils sont tirés au sort par rapport aux 50 suivants, parce que à ce niveau-là de détails dans la notation, il n'y a aucune différence entre les notés et les tirés au sort. Et du coup, mais c'est un exemple intéressant sur justement la perception qu'on peut avoir du hasard et de la justice que peut faire le hasard. Là, on a l'impression que c'est complètement injuste de tirer les étudiants en médecine au hasard.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que la justice aussi ? Parce qu'on peut aussi se demander finalement si ceux qui arrivent en première année de médecine ont eu tous les mêmes chances et sans doute pas pour justement avoir les compétences requises pour intégrer la fac, et que peut-être justement, voilà, l'injustice, elle existe de toute manière déjà avant. Gilles Delannoy, alors je ne sais pas si vous voulez rebondir sur la fac de médecine et aussi peut-être répondre à la question de Laurent de Boissieu.
Ce qui me gêne dans l'affaire de l'école des études de médecine, c'est que le but du tirage au sort n'est pas, s'il y a des performances différentes, d'éliminer les meilleurs. Ça n'aurait, je pense, aucun sens. En revanche, effectivement, on pourrait l'appliquer marginalement dans des systèmes de notation. Tous les gens qui ont entre 9 et 11, on peut estimer en effet que l'arbitraire de la notation et la marge est telle que si on les tire au sort, le résultat ne serait pas plus injuste. Mais c'est un peu différent. Mais je pense que personne ne demandera à un entraîneur d'une équipe sportive de tirer au sort son équipe. Non, on lui demande de choisir les meilleurs. C'est la logique. Ou alors on abandonne complètement la règle du jeu. Sur l'autre question, je crois qu'on peut tirer au sort dans tous les cas, quel que soit il suffit d'égaliser la compétence des gens parmi qui ce sera tiré au sort. Donc, quand c'est un jury d'assises, tous les citoyens peuvent juger en leur âme et conscience. S'il faut des compétences politiques un peu plus grandes, peut-être que l'idée d'une demi-candidature est pensable. Allons juste à l'exemple théorique, parce que c'est une chose que j'entends souvent et qu'on m'oppose souvent. Dans les cas les plus évidents, le tirage au sort n'est pas une option qui se présente. Non seulement personne n'a envie de se faire arracher une dent par un dentiste tiré au sort dans la totalité de la population, mais à quelques exceptions près qui sont douteuses, personne n'aurait envie non plus d'être tiré au sort pour arracher une dent à quelqu'un s'il n'a pas une formation de dentiste. Donc vous voyez, vous pouvez appliquer ça à votre garagiste si vous voulez aussi, si vous aimez votre voiture. Mais donc ce qui compte, c'est que la compétence ait été égalisée. À partir de là, le vrai problème, c'est de savoir quand la compétence est égale dans toute la population, dans une partie de la population, dans une profession.
Alors ça, je suis d'accord. Enfin, je trouve qu'on comprend très bien l'exemple avec le dentiste ou avec le garagiste, mais avec le représentant politique et le député, par exemple, Pierre-Henri Tavoyau, ça serait quoi le critère de compétence pour dire, bah voilà, ce panel-là, on peut procéder à un tirage au sort parce que les compétences sont à peu près les mêmes. Et finalement, question peut-être subsidiaire, pourquoi est-ce que ce critère de compétence devrait être absolument premier, si on veut une démocratie représentative et qui soit également représentative de la population ? La population n'est pas forcément compétente.
Alors, je pense que moi, je prendrais le problème un tout petit peu à l'envers, parce que le fait de gagner une élection, c'est une vraie compétence. Et ça, c'est un argument contre le tirage au sort. C'est-à-dire le fait de pouvoir gagner une élection, c'est une vraie compétence, qui ne suffit pas, parce qu'on peut aussi gagner très bien une élection en étant tout à fait incapable d'exercer le pouvoir. Et même d'ailleurs, les qualités pour gagner les élections sont souvent contraires avec les qualités nécessaires pour exercer le pouvoir. Mais c'est quand même une compétence. Par ailleurs, je prendrais l'argument à l'inverse, c'est en termes de légitimité. Aujourd'hui, c'est un problème de représentation, c'est pas tellement dans la modalité de désignation, c'est plutôt dans la légitimité des représentants qui sont élus. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi le fait de pratiquer le tirage au sort augmenterait
la légitimité des personnes qui seraient désignées de cette manière. Nous avons un problème grave de légitimité démocratique. Imaginons que François Hollande ait été désigné par le tirage au sort. Je pense que la situation ne serait pas meilleure aujourd'hui pour lui en termes de son âge, et même d'ailleurs que sa puissance, déjà c'est un peu faible en ce moment, mais sa puissance à avoir des relais dans l'opinion serait encore plus restreinte. Donc je trouve que là, il y a encore une fois l'idée d'une sorte de gadget qui est très intéressant du point de vue du citoyen, mais assez peu du point de vue de la réalité de l'exercice du pouvoir.
Gilles Delannoy.
J'employais compétence, ça mérite d'être précisé, au sens où nous sommes tous capables de faire une même tâche. Nous avons tous la compétence pour parler notre langue maternelle. Ça ne veut pas dire que nous la parlons tous aussi bien. Mais dans une tâche qui requiert simplement comme compétence d'être capable de parler sa langue, toute la population qui la parle est compétente. S'il s'agissait, ça se pose dans certaines sociétés, et même dans la nôtre à vrai dire, de savoir lire et écrire, c'est différent. Vous voyez, ces compétences en ce sens très général. C'est pour ça que je disais, pour être juré d'assises, il suffit de juger dans son âme et conscience, tout être humain peut le faire. Si ça vous demande une compétence livresque plus grande, donc je pense que le problème de la compétence, il est à la fois indispensable, ce critère de la compétence, mais il ne faut pas en faire une montagne. Il va de soi la plupart du temps. Si vous devez tirer au sort parmi les personnes qui sont capables d'enseigner le l'anglais, ben, vous aurez évidemment fait ce premier tri. C'est cette compétence-là que vous aurez mesurée.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du tout début de l'émission où j'évoquais ce candidat à la législative partielle de Strasbourg hier, qui a été désigné par le sort après avoir été quand même candidat. Et c'est justement ce qu'on va vous expliquer. Ce collectif qui s'appelle Ma Voix et dont l'objectif, alors là, c'était une sorte de galop d'essai, mais est de hacker l'Assemblée nationale en 2017, puisqu'il y aura des législatives l'an prochain, pas seulement la présidentielle. Et il se trouve que Mélanie Chalandon a rencontré un des membres du collectif de ce week-end et il l'a expliqué un petit peu quelle avait été leur intention par rapport à la législative dans le Haut-Rhin.
On a posté en fait sur Facebook une offre d'emploi à laquelle 20 personnes ont répondu. Ces personnes, on les a formées via un MOOC.
Offre d'emploi pour devenir député.
Exactement, et tout à fait. Donc il y a 20 personnes qui ont suivi le MOOC pendant toute une semaine pour apprendre vraiment le plus vite possible à qu'est-ce que c'est qu'un député, comment ça marche, au jour le jour, qu'est-ce qu'il fait, pour lui donner vraiment tous les leviers pour exécuter son mandat. Ces 20 personnes ont été, entre guillemets, validées. Et on a tiré une au sort pour être notre porte-parole.
Qui est cette personne ?
Cette personne, c'est Daniel Berger, je crois. C'est un libraire. Mettons qu'il y a un texte sur la biodiversité, par exemple. Daniel, il croit pas du tout en la biodiversité. Et pourtant, sur la plateforme, on est tous très sensibles. Donc 90% des gens votent pour cette loi. Et ben Daniel devra voter pour cette loi parce que c'est la plateforme qui fait foi. Et donc Daniel est juste un porte-voix en fait.
Voilà, est-ce qu'il s'appelle Daniel Berger ou Daniel Gerber? Voilà, on n'est pas tout à fait sûr, mais finalement c'est pas grave. C'est ça qui est aussi intéressant de ce que dit ce militant de Ma Voix, parce qu'il sera un porte-voix. Donc Barberousse, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, et je ferai également réagir à nos autres invités.
Là, je pense que c'est vraiment un usage extrêmement limité du tirage au sort à partir du moment où c'est juste quelqu'un qui est effectivement le porte-voix d'un groupe de personnes. Donc là, on pourrait se dire c'est il n'y a pas de représentation au sens politique, il y a juste une représentation au sens de justement de la voix, mais pas du tout au sens politique. C'est le hasard au sens de l'interchangeabilité, mais au sein d'un groupe extrêmement restreint.
Et là, ça pose davantage de problèmes à vos yeux ?
Non, ça ne pose, pour moi, ça ne pose aucun problème, mais je pense que c'est complètement différent du tirage au sort dans l'ensemble de la population. C'est deux sens complètement différents du tirage au sort.
Pierre-Henri Tavaillot.
Oui, ça, c'est une pratique de ce qu'on appelle le mandat impératif, qui était le mandat d'ancien régime, où effectivement les députés étaient considérés comme des simples porte-parole ou porte-voix ou commissaires, comme on disait. La doctrine de la démocratie représentative, c'est considérer que le député, une fois qu'il est élu, ne représente pas les gens qui ont voté pour lui, mais représente la totalité de la nation, des citoyens, et qu'il est une parcelle de la volonté générale.
Le mandat impératif est même interdit en France dans la Constitution aujourd'hui.
Oui, le mandat impératif est interdit et donc, par exemple, le député du Var ne représente pas le Var. Voilà, il représente la France. Donc là, c'est deux
principes, hein, parce que alors. Bon,
oui, oui, bien sûr. Mais néanmoins, il y a beaucoup de prudence dans les questions au gouvernement. On voit que le député va prendre comme exemple le Var, comme par hasard, mais il ne va pas défendre les intérêts du Var ou de quelque autre département. Donc ça pose un problème dans la mesure où un des principes de la démocratie représentative, c'est effectivement l'indépendance du député à l'égard de ses électeurs. C'est ça qui permet d'envisager une deuxième étape de la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est des élections, la délibération, la décision et une reddition de comptes. Il faut rendre des comptes. Et ces comptes arrivent au bout d'un certain temps. Donc on réélit ou on réélit pas. Voilà, ça c'est le principe. Donc le mandat impératif, c'est une reddition de compte au quotidien, et ça c'est un problème parce que du coup ça suppose une immédiateté dans une démocratie. Et quand on y réfléchit, je suis pas persuadé que l'immédiateté soit une très bonne chose en démocratie.
L'immédiateté, ça pose problème, Gilles Delannoy. Cela dit, on n'est pas obligé d'être dans l'immédiateté. Il peut y avoir aussi, entre deux élections, des rendez-vous où... alors, par exemple, je me souviens qu'en 2006, Ségolène Royal, qui était candidate à la présidentielle, avait évoqué l'idée de jury citoyen qui pourrait évaluer régulièrement l'action des représentants.
Oui, c'est l'idée que je citais de Robert Dahl, d'instances consultatives qui, à la fois, sont des instances d'évaluation tirées au sort et, en même temps, devant lesquelles l'exécutif, le gouvernement doit se présenter, ce qui lui donne un tout autre public tous les jours pour faire de la politique. Donc c'est une conception intermédiaire entre la représentation descriptive, précise, en miroir par le tirage au sort et certains principes de la délibération des représentants. Juste un mot sur ma voix. En effet, c'est plutôt ce qu'ils introduisent qui est intéressant d'ailleurs. C'est le principe du tirage au sort au niveau du parti. Bon, le mot parti ne leur plairait sans doute pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Au niveau des instances qui proposent des candidats. Alors ensuite, si l'on cherche des moyens de subvertir les procédures existantes, il y en a beaucoup, hein, je peux vous en citer. Enfin, je ne veux pas me faire trop... Vous pouvez introduire du tirage au sort dès qu'il y a un scrutin de liste. Hein, vous tirez au sort la place sur la liste parmi tous les gens qui veulent figurer sur cette liste et vous pouvez même démissionner tous les ans et faire une rotation avec le scrutin de liste. Toutes les personnes qui connaissent le Parlement européen...
Ça marche plus avec la parité. Oui. Parce que du coup, ça risque de produire voilà. Des bugs en termes de parité. Oui. Parce que si le tirage au sort...
Une place sur deux.
Voilà. Voilà.
Laurent de Boissieu.
Oui, vous parliez de compétences tout à l'heure, mais la démocratie, c'est justement l'idée que chacun a une parcelle de souveraineté en lui. Et cette parcelle de souveraineté, il peut éventuellement l'exercer directement, ce qu'ils ont fait lors du référendum, par exemple.
Voilà ce que j'allais vous dire. Donc, pour ça, on n'a pas besoin du tirage au sort, on a le référendum.
Mais en quoi le tirage au sort ne permettrait pas de nous désigner, nous, si on est tous... Et là, il n'y a pas une compétence, la souveraineté, nous l'avons tous.
Le tirage au sort, en général, a été appliqué à des échelons plus réduits en taille. On peut le faire aussi au niveau de grandes populations, ce n'était pas un problème. Mais le tirage au sort pourrait être utilisé, par exemple, dans la démocratie locale. On pourrait imaginer qu'une partie... Les problèmes sont connus. Il y a déjà une compétence intrinsèque. Et le fait que d'habiter une ville ou un village ou un canton fait que vous en connaissez un peu les problèmes. Alors, vous y avez aussi des intérêts.
Pour élire les conseillers municipaux.
Oui, on pourrait, en tout cas, on pourrait imaginer qu'une partie des conseils municipaux, sans doute pas la totalité, mais comporte des représentants ou des conseillers tirés au sort.
C'est important ce que vous dites. Hein. On y a aussi des intérêts, effectivement. C'est-à-dire sur le local, c'est pas seulement des actes désintéressés qui pourraient être pris par des gens tirés au sort. Pierre-Henri Tavoyau.
Je pense qu'il y a là deux types d'applications. Il y a l'application sur le mode démocratie participative, c'est-à-dire est-ce que les citoyens tirés au sort participent à la décision ou si c'est sur le mode de la démocratie délibérative, s'ils participent à l'élaboration de ce qui va devenir une décision, mais sous la forme d'une délibération. Et de ce point de vue-là, il y a des pratiques qui sont alors très intéressantes sur des sujets de société extrêmement chauds, comme par exemple en bioéthique, où on a pratiqué ce type de choses. On tirait au sort sous le mode des jurys un certain nombre de personnes qui n'avaient aucune compétence particulière. On leur disait, voilà, est-ce que par exemple le louage des ventres des mères porteuses, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On les formait, ils passaient par des auditions, ils émettaient un avis et ils rendaient un avis. Mais ce n'était pas la décision, c'est rendaient l'avis. Alors simplement, il faut bien voir que sur ce type de questions, ça marche sur des questions qui sont intéressantes. Pour effectivement les questions de bioéthique, ça, ça passionne. Si vous prenez le diamètre des tuyaux dans la construction isotope, ça va fonctionner beaucoup moins, ça va beaucoup moins passionner. Donc on peut pas non plus envisager sur toute espèce de sujet pourtant très important de notre démocratie qui est de plus en plus technique, la procédure du tirage au sort, parce qu'effectivement ça n'intéresse pas forcément.
La science, Anouk Barberousse, peut avoir besoin de compétences de personnes qui auront été tirées au sort pour réfléchir à des sujets qui, certes, sont pris en charge par les scientifiques, mais qui concernent bien au-delà du seul cercle des scientifiques.
Alors, il y a des exemples où, effectivement, on a besoin des compétences communes en grand nombre. Mais là, justement, à partir du moment où on utilise le grand nombre pour faire des prédictions, si on demande à un très grand nombre de gens si la Grèce va sortir de l'Europe d'ici 6 mois, par exemple, on dit souvent que les prédictions qui sont faites par donc la moyenne des prédictions sur un très grand nombre de gens est relativement fiable. Et là, c'est un exemple où effectivement on a une proposition qui n'a pas justification scientifique, mais qui utilise une des propriétés des lois du hasard, à savoir que quand on a des très grands échantillons, finalement, on a une bonne chance d'avoir une prédiction juste. Mais ce n'est pas le hasard directement, c'est les propriétés des grands nombres en quelque sorte et la façon dont les erreurs se compensent quand on prend encore une fois de très grands échantillons.
Mais quand vous parlez de très grands échantillons, c'est quoi un ordre d'idée?
C'est plutôt 10 000, 100 000 personnes, 10 000, 100 000 prédictions, c'est vraiment de très très grands échantillons qui sont pris en compte là dans les marchés de prédictions, parfois moins. Et là, c'est un peu un cas extrême où, effectivement, on n'a encore une fois pas de justification scientifique et on fait appel à des compétences générales. Mais après, on les égalise en tenant compte, justement, des lois mathématiques du hasard.
Donc, on peut faire confiance, d'une certaine manière, au hasard quand il s'applique à un grand nombre, ce qui peut peut-être d'ailleurs être un petit peu en contradiction avec l'impression qu'on vit aussi dans une société où, individuellement, on est plutôt tenté de plus en plus d'abolir le hasard. Quand on va parler du développement de la médecine préventive qui est extrêmement important, on voit bien que chacun a presque envie de gérer toutes les incertitudes de sa vie, Pierre-Henri
Tabarot. C'est un paradoxe très intéressant, parce que c'est vrai que la démocratie, au-delà de la procédure, c'est vraiment la maîtrise par le peuple de son propre destin. Et cette maîtrise de son propre destin suscite, alors pour le meilleur comme pour le pire, le fantasme de la toute-puissance et le fantasme, effectivement, de rejeter absolument toute espèce de hasard. Donc le aléa ejecta est de César, donc les dés sont jetés, le aléa c'était un jeu de dés à l'époque, c'est précisément c'est jeté, donc le hasard il est derrière nous, maintenant on y va, on attaque. Et d'ailleurs, les mots sont très intéressants, tirer les rois, l'expression tirer les rois, c'est une réminiscence aussi de la fête des Saturnales à Rome, où on nommait une sorte de roi bouffon qui avait tous les pouvoirs. Le mot hasard est un mot qui vient de l'arabe et qui est un jeu de dés. Il y a toute une série de chances sémantiques. Chance aussi, change, c'est très intéressant. La chance, l'étymologie, ça vient de cadeau, cadere en latin, c'est ce qui tombe, c'est les dés quand ils sont tombés, la manière dont les dés tombent. Hein, et cadence et chance ont la même étymologie. Donc voilà, le hasard est vraiment présent sous cette forme dans nos vies.
Voilà, et d'ailleurs, la preuve que le hasard ne fait pas toujours bien les choses, hein, je reprends votre analogie avec le tirage des rois, c'est que, par exemple, moi, je n'ai jamais la fait, vous voyez, chaque année. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que, voilà, il ne faut pas toujours faire confiance au hasard. Merci beaucoup, en tout cas, à tous, d'avoir participé à cette discussion. Ce n'était pas une conclusion qui était prévue, elle m'a été inspirée par vos propos, Pierre-Henri Tavoyau. Et merci à Anouk Barberousse, à Gilles Delannoy et à Laurent Deboissieu. Donc, je rappelle, hein, pendant 3 semaines, on va suivre un petit peu vos réflexions dans le journal sur l'avenir de la politique, pas seulement en parlant des choses qui vont mal, il y en a, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, hors antenne, Pierre-Henri Tavoyau, on pourrait aussi se poser la question de finalement pourquoi elle marche, cette démocratie, malgré tout. Voilà, vous pouvez poursuivre cette émission sur notre site en commentant, nous écrivant, c'est franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Bayer, Hugo Florent. Émission réalisée par Anne Comillac avec à la prise de son Bruno Gagnard Fontanille. Demain, l'Espagne vit-elle une nouvelle transition démocratique? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20. Tout de suite, c'est ping-pong, Mathilde et Martin. Bonsoir à tous les deux.